Gloire à Dieu, ici le pasteur Joel Spinks et je suis encore avec vous aujourd'hui dans le thème du salut dans l'étude du livre « Le disciple victorieux ». Aujourd'hui, on continue en se posant la question « Comment vivre dans la sainteté, la révélation de la croix, la révélation de la grâce ?» Donc, ce que nous avons vu, la grâce qui vous a sauvé est la même grâce qui vous donne la victoire quotidienne. Donc, à chaque jour de ma vie, je peux marcher dans la grâce de Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu pour vaincre l'ennemi. Et ma foi est toujours placée dans l'œuvre de la croix. Je me rappelle que 2000 ans, Jésus a payé pour ma dette de péché, mais pas juste ça. Le Seigneur Jésus a également acheté, il a racheté ma possibilité de marcher victorieusement sur le péché. Dans 1 Corinthiens 1, 18, nous l'avons lu dans la dernière session, il est écrit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et voilà, c'est la puissance que vous avez besoin. Si vous êtes pris avec toutes sortes de péchés, peut-être des péchés secrets, peut-être c'est la cigarette, peut-être il y a toutes sortes d'autres choses dans vos vies, ce que vous avez besoin, c'est la puissance surnaturelle de Dieu par votre puissance. Dans Galates 2, versets 20 à 22, il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Donc, on ne rejette pas la grâce de Dieu, on ne rejette pas la puissance de Dieu, mais nous sommes dépendants sur cette grâce pour vivre victorieusement à chaque jour. Et vraiment, on passe juste quelques instants aujourd'hui pour vous parler du message de la grâce, du message de la victoire en Jésus, mais je veux vraiment fortement vous encourager à écouter l'enseignement, votre valeur, votre rachat. Très important. Votre valeur, votre rachat et également l'infirmerie du Saint-Esprit. Ici, on parle pendant longtemps sur l'œuvre de la croix et comment bien positionner votre foi pour vivre victorieusement. Alors, c'est vraiment important d'écouter ces deux enseignements-là. Et en terminant pour ce thème-là concernant la sainteté et la vie victorieuse, 1 Jean 5, 4, il est écrit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Vous avez remarqué, on parle constamment de la foi. C'est évident. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, notre foi ouvre la porte vers la vie éternelle et vers toutes les bénédictions de Dieu. Maintenant, comme vous vous rappelez, il y a quelques temps, lors de nos sessions, on a parlé. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé? Vous vous rappelez que j'avais même souligné l'importance de vous rappeler de certains versets. Et maintenant, aujourd'hui, on va étudier la doctrine de l'élection et la prédestination. Vous allez dire, comment ça? Je suis un nouveau chrétien, ça semble un peu compliqué. C'est important pour nous, dès notre nouvelle naissance, qu'on puisse vraiment comprendre le cœur de Dieu, qu'on ne soit pas séduit par des fausses doctrines qui circulent dans le corps de Christ. Donc, une des choses, on veut se poser la question numéro 1. Quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne le salut des âmes? Vous vous rappelez, j'ai lu autrefois ce texte, et on va le relire maintenant. 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, la question est là, la réponse est Dieu veut sauver tous les hommes, c'est clair. Deuxième question, est-ce que l'homme exerce sa volonté en ce qui concerne son salut? L'Apocalypse 22, verset 17, nous donne la réponse. « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif « Vienne !» Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Évidemment, ici, nous avons un choix. Nous l'avons déjà vu au tout début. Nous avons un choix. Celui qui veut. Si vous voulez venir au Seigneur, vous pouvez venir. Gloire à Dieu. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Encore une fois, nous voyons la parole de Dieu est claire. Nous avons un choix. Nous ne sommes pas des robots. L'homme a toujours la volonté de choisir ou de rejeter l'eau vive ou la vie. Troisième question. Jésus n'a-t-il pas dit que l'homme ne l'avait pas choisi? Oui, Jean 15, verset 16, ce que nous voulons voir ici, le texte dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Maintenant, la réponse. Nous devons premièrement réaliser que Jésus s'adressait aux 12 apôtres personnellement, et ce, concernant leur appel d'apôtre. Ceci dit, nous pouvons également comprendre que c'est Dieu qui a choisi de venir sauver l'humanité et non pas l'inverse. Donc, c'est vraiment important de connaître le contexte. Des fois, les gens vont prendre des textes hors contexte pour nous faire croire des choses, comme quoi Dieu nous a choisi. Toi, je veux te sauver, mais non, pas toi. Non, mais ça contredirait le texte qu'on a lu dans 2 Pierre 3:9. Quatrième question, comment pouvons-nous comprendre la souveraineté de Dieu? Il y a des gens qui sont très forts là-dessus. Ils vont toujours dire, Dieu est souverain, Dieu est au contrôle de tout. Et certainement, Dieu est souverain. Mais une des choses qu'on doit comprendre, c'est que dans sa souveraineté, Dieu a choisi de déléguer de l'autorité à l'homme. Et vous retrouverez des enseignements sur l'autorité du croyant que vous devez vraiment étudier parce que c'est vraiment essentiel pour votre vie chrétienne victorieuse. Mais vous verrez ça plus tard. La question ici, comment pouvons-nous comprendre la souveraineté de Dieu? Dans Romains 5, verset 8, et bien sûr, ça c'est en rapport avec le salut, dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La réponse, avant même que l'homme puisse désirer Dieu, Dieu a choisi de sauver l'humanité. Donc, c'est clair. Question numéro 5, « Comment Dieu a-t-il voulu sauver l'humanité? » Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La réponse, Dieu a voulu sauver l'humanité par son Fils. Gloire à Dieu, c'est facile, hein? On se pose des questions, on laisse la parole de Dieu répondre. La sixième question, « Y a-t-il des croyants en surface qui ne deviennent jamais des intimes du Seigneur? » L'intimité dans la parole de Dieu se présente sous la forme du verbe « connaître », comme on peut voir dans Genèse 4:1, Adam connut Ève. Sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. La relation de Christ et les sauvés se présente sous la forme époux et épouse. Donc, dans Jean 3, versets 28 à 29, les paroles de Jean-Baptiste, nous lisons, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Alors ici, nous lisons également Matthieu 25, verset 1 qui dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Réponse, il y a des croyants qui ne deviennent jamais des intimes du Seigneur. 1 Jean 3, 6, « Quiconque demeure en lui ne pêche point, ne pratique pas le péché. » En d'autres mots, « Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Donc, quelqu'un qui marche constamment dans le péché, on peut voir ici, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, 1 Jean 2, 4, il est écrit, « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » On continue Matthieu 7, versets 19 à 24 et prochainement, nous allons commenter. « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui, la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Note, on va lire ensemble la note. Évidemment, ce n'est pas suffisant de simplement croire en Jésus et même œuvrer pour lui en son nom. Nous devons avoir une relation d'intimité avec le Seigneur. Cette relation se veut comme étant une communion dans la parole, dans la prière et dans la sainteté. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous vous rappelez, on a vu plusieurs de ces versets-là. Plusieurs croyants travaillent pour Dieu, mais oublient de communier avec leur maître. Ils finissent par ne jamais devenir un ami véritable de Dieu. Aujourd'hui, la question s'impose, êtes-vous un ami de Dieu? Ésaïe 41, verset 8, dans la français courant, dans la version français courant, il est écrit, « Écoute, Israël, mon serviteur, peuple de Jacob que j'ai choisi, race de mon ami Abraham. Moi, ma prière, c'est que les gens puissent dire « Joel Spinks était un ami de Dieu ». Là, on regarde la septième question. Comment pouvons-nous comprendre la prédestination? Éphésiens 1, verset 11. Remarquez, si vous avez le livre devant vous, vous pouvez voir le caractère gras ici. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Remarquez, il y a des gens qui disent, bien, Dieu a choisi certaines personnes pour être sauvées et d'autres personnes non. Mais ici, ça nous dit comment ça fonctionne, cette prédestination-là. Éphésiens 1, 11, c'est en lui. Si vous êtes en Christ, vous êtes prédestiné à vivre la gloire. Vous êtes prédestiné à aller au ciel parce que vous êtes dans celui qui est le prédestiné, Christ. Note, sa volonté est précisée dans 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. De plus, tous ceux qui placent toute leur foi en Jésus-Christ et dans l'œuvre de la croix, pour leur salut, expérimentent la nouvelle naissance, Jean 3, 3. Ils sont sauvés, baptisés dans le corps de Christ pour former un seul corps, 1 Corinthiens 2, 12, 13. Ce corps est l'édifice spirituel que l'on appelle l'Église. Ces croyants sont donc placés en lui ou dans son corps. Ce dernier, le corps de Christ, est prédestiné à la gloire, Éphésiens 5, 27. Donc, c'est le corps de Christ qui est prédestiné. Et lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous faisons partie de ce corps prédestiné. Donc, ne croyez jamais le mensonge que Dieu a choisi certaines personnes pour le salut et d'autres, non. Et le fait, l'omission de cette sélection fait en sorte que les personnes vont automatiquement en enfer. Ça, c'est erroné et ça crée vraiment une confusion dans le corps de Christ. Et en même temps, ça l'insulte le caractère de mon bon Dieu que je connais. C'est donc le corps de Christ qui est prédestiné et non pas les individus à l'extérieur indépendamment de ce corps. Une croyance contraire fait violence aux Écritures et contredit d'autres passages bibliques concernant l'autorité et le libre arbitre de l'homme. Le corps de Christ est élu, choisi ou prédestiné afin de ressembler au Fils. Tous ceux dans l'Église véritable font partie des élus, car ils font partie du corps. L'être humain choisit, s'il accepte ou non, de faire partie de ce corps élu. Et c'est simple, hein? C'est la parole de Dieu. Éphésiens 1, 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous accorde en son bien-aimé. Remarque, l'élection se produit uniquement en lui. Pour voir quelle est la volonté de Dieu, relisez 2 Pierre 3, 9, qu'on a relu plusieurs fois là, jusqu'à présent. Huitième question. Comment fonctionne cette élection? Bien, la réponse est dans 1 Pierre 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et les Bithynie, et qui sont élus selon la préséance de Dieu. Le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, la réponse, Dieu connaît à l'avance ceux qui feront partie de ce corps. Neuvième question, quelle est la destinée ultime de ceux en lui ou dans ce corps? Romains 8, 29 à 30, nous avons la réponse. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La réponse, la glorification attend ceux dans le corps de Christ. Vous êtes dans le corps de Christ, la glorification vous attend. Vous allez glorifier. Gloire à Dieu. Dernière question, est-ce que l'homme a une responsabilité dans cette élection? 2 Pierre 1, 10. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et 1 Jean 5, 13, il est écrit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vérité, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Verbe actif, au nom du Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons affirmer notre vocation et élection en demeurant dans la foi, le moyen par lequel nous sommes sauvés, Éphésiens 2:8. Alors voilà, nous venons de faire le premier chapitre sur le salut. Gloire à Dieu, nous allons de l'avant. Nous savons que nous avons été choisis par Dieu parce que nous sommes en Christ. Nous avons pris la décision de servir le Seigneur, de lui donner notre vie. Et aujourd'hui, on est en route vers le ciel. Gloire à Dieu, nous sommes sauvés, nous avons l'assurance de notre salut, nous persévérons jusqu'à la fin et la gloire de Dieu et sa glorification est devant nous. Alors, on va poursuivre prochainement avec notre deuxième chapitre. Soyez richement bénis.